Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Mario. C'est moi ce matin qui va vous amener la parole. C'est un privilège que je respecte toujours avec grand respect envers notre Dieu. Parce que c'est toujours quelque chose de pouvoir amener un message au nom de Dieu. Parce que dans le fond, on ne le fait pas en notre nom personnel. Alléluia. Vicky n'est pas là. Je ne sais pas si tu as eu la chance de sortir juste le titre. T'as-tu eu la chance? Non? Tu l'as oublié? Correct, pas de problème. Je vais vous le dire tout de suite. J'avais trouvé une image. Et sur l'image, ça disait « Gédéon est la puissance de la faiblesse ». Mais sur l'image, on voyait un vase. Puis avec une petite craque au travers, qui a un peu de lumière qui sortait. C'est juste parce que ça ramène de quoi dans mon message. Bon, ce matin, on va aller dans Corinthiens, mais c'est juste pour une ouverture. Après ça, je vous emmène dans l'Ancien Testament. On s'en va faire un peu d'histoire. Corinthiens 4, 6 et 7. Je ne sais pas si on l'a. Ça, c'est Corinthiens 2. En tout cas, au pire, je les ai toutes écrits ici. C'est pas pire, hein? Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Le Seigneur a mis ça dans nos vases. On est argile, on va revenir argile. Il y a quelques années passées, quand on était ailleurs, j'ai déjà prêché sur ce sujet-là. Et ça avait été démontré que Dieu aime faire des Gédéons. Je vais vous expliquer ce que je veux dire au travers de Gédéon. Notre histoire va être basée sur Gédéon. Ça veut dire de prendre une personne faible et une situation difficile et surprendre tout le monde pour que sa gloire soit révélée. Ça fait des milliers d'années que Dieu fonctionne de cette façon. Il n'est pas prêt d'arrêter aujourd'hui, je crois. Ça fait plusieurs années qu'il va venir à bout de se servir de situations faibles dans notre vie pour venir à bout de montrer sa gloire. Et ce n'est pas sur le bord d'arrêter. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Gédéon, Israël était... Tu sais, dans les juges, quand on va dans les livres des juges, Israël, il faisait bien, il faisait mal, le Seigneur envoyait quelqu'un, il y a un juge qui se relevait, ça repartait, il refaisait mal, il recommençait. Ça ressemble beaucoup à notre vie. Tu sais, des fois, là, on a de l'air à avoir de la misère à garder la ligne. On a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et à ce moment, c'était au moment de Gédéon, c'est les Midianites qui se trouvaient à faire l'oppression sur Israël à ce moment-là. Et Gédéon, finalement, c'est ça. Gédéon, parce qu'Israël avait mal agi, puis ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a choisi Gédéon pour libérer le peuple. Mais quelque chose de spécial à propos de Gédéon, c'est qu'il était le plus jeune de sa famille dans la plus petite tribu d'Israël. Il se trouvait tellement faible pour que Dieu le choisisse, lui, pour arriver à libérer le peuple. Okay? Gédéon, il ne se sentait pas pantoute qualifié. Ça, on peut voir ça dans Juges 6-12. La façon, ça, je ne te l'ai pas donné tantôt, mais c'est correct. La façon que Dieu se présente à Gédéon, il arrive et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » C'est de moi tu parles. Gédéon, il est là, il est vaillant guerrier. Tu ne m'as pas vu, là. T'sais? Mais Dieu se révèle à lui de cette façon-là. Il y a une belle histoire, je vais vous encourager à aller le lire, dans Juge, sa rencontre avec Dieu, parce que ce n'est pas là-dessus ce matin que mon message est. Mais sa rencontre avec Dieu, Gédéon va demander un signe à Dieu pour savoir si c'est vraiment de Dieu, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis souvent, on va arriver et on va mettre une toison devant le Seigneur, mais ça vient de là. C'est parce que Gédéon, pour savoir si c'est vraiment Dieu, il a demandé un signe à Dieu. Il dit, regarde, je veux savoir si c'est vraiment toi. Fait que là, il a pris une peau de mouton, là, puis il l'a mis là, puis il a dit, bon, mais un soir, il va y avoir de la rosée partout, puis ça va rester sec. Puis l'autre soir, c'était, là, je pense que j'ai un avant de l'autre, là. Mais l'autre soir, c'était pour être mouillé, puis tout était sec en entour. Fait que là, il a même demandé deux fois, parce que des fois que quelqu'un m'a entendu, puis qu'il a mis la guenille mouillée, là, tu sais, puis, tu sais, pour me faire croire. Mais finalement, ça, c'est la base de l'histoire de Gédéon. Mais quelque chose de spécial sur le point d'arriver dans cette étude, c'est un peu plus une étude que je fais, dans Juges, puis nous allons voir cette victoire de Gédéon sur les Madianites, et qui nous pointe en une direction d'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament. Et c'est... Je ne l'avais jamais vu. C'est le fun, la manière que ça ramène. C'est pas moi qui ai le crédit de ça. C'est une étude que j'ai trouvée. C'est vraiment une étude biblique que j'ai trouvée. C'est un monsieur qui s'appelle Gordon. Et je ne veux pas prendre le crédit pour quelqu'un d'autre. Donc, je ne suis que le traducteur ce matin. Alléluia. J'en ai fait un petit peu quand même. Un petit peu à ma version quand même. Un petit peu. Et... Que la bataille commence. On s'en va en Juges 7, 1 et 2. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Moré dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. » Ah, c'est drôle, hein? C'est quand on se présente à la guerre, on en a trop, mais c'est correct. T'sais? Fait que, voici, l'opération en défense Madian est débutée. Et dès le début, on voit que ce ne sera pas une bataille ordinaire. Même avec tous les hommes que Gédéon a rassemblés, ils ne sont vraiment pas beaucoup, en fait, comparé à l'ennemi, parce que eux autres sont 32 000. Ils ont 32 000 hommes, ce qui est quand même pas, c'est quand même respectable, qui ont choisi de mettre leur vie sur la ligne pour aller libérer Israël. Mais un fait intéressant, si on lit dans Juges 8, 10, l'armée de Médian avait 135 000 hommes. Qu'est-ce que 32 000 en avant de 135 000? T'sais, ça commence à faire toute une bataille. Et une autre chose, dans les 32 000 hommes d'Israël, oui, c'était les hommes, mais c'est aussi des fermiers. C'est pas juste des combattants, là. C'est pas des soldats, là. C'est des gens qui viennent de chaque famille, qui ont décidé de vouloir venir porter puis aller affronter l'oppresseur. Mais eux autres, ils vont faire face à 135 000 hommes de combat. Ce qui aurait voulu dire que les Israélites auraient dû tuer autour de 4 soldats chaque pour obtenir la victoire. Ça veut dire que si, admettons, on s'enligne ici, le groupe, moi, je me place, je me place entre Martin puis Joey. Fait que, tu sais, j'ai plus de force. Tu sais, on aurait du monde, du force. On choisit d'aller se mettre entre les plus gros. Hein. Mais on va avoir une chance de survivre. Entre ceux-là qui ont l'air d'avoir des plus gros bras. Tu sais? Mais disons que 4 contre 1, les chances ne sont pas vraiment de leur côté. Ça fait que notre ami Gédéon devait être quand même un peu nerveux. Et Dieu lui dit, tu as trop de monde. OK? Pas tout à fait ce que ça tente d'entendre. C'est pas exactement les mots que tu aimerais entendre avant un combat. OK? Est-ce qu'on a déjà entendu parler dans l'histoire des combats? Tu sais, oui, ils vont faire avec, mais que le monde va y aller puis qu'on doit réduire les troupes avant même de commencer, je pense pas qu'on... C'est pas dans l'histoire de combat. Dans le monde naturel, ça sonne un petit peu absurde, mais dans le spirituel, c'est exactement ce que Dieu veut nous enseigner. Une petite note. On passe souvent trop de temps à peser le pour et le contre et analyser quel sera le résultat. Avant même de commencer à faire un combat dans notre vie ou une situation... On va prendre tout le temps d'analyser, essayer de voir, on veut comprendre, on veut essayer d'évaluer le résultat. Et c'est pour ça que Dieu doit souvent nous amener jusqu'au point point le plus faible de nos forces. Il doit nous laisser aller jusqu'à terre. Ce moment où on est plus capable d'avoir de solutions au naturel est ce moment où Dieu peut enfin agir librement dans nos vies. Et malheureusement, bien souvent, on n'apprend pas assez vite. Fait qu'il faut être emmené là plusieurs fois dans notre vie avant de pouvoir être capable de réaliser que, ouf, c'est là que Dieu est fort. Je retourne dans Juges 7, 2 et 3. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, parce que là, tantôt, je n'avais pas lu le verset au complet, et parce que je vais prendre juste la fin du reste ici, pour que je livre Madian entre ses mains, car il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Je publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en restait 10 000. Pas pire, il y en avait pratiquement un tiers qui était là, qui était venu. On a suivi le mouvement, mais finalement, là, j'ai peur. Tu sais, je ne veux pas être là. T'sais? Fait qu'il y en a 22 000 qui s'en vont. Donc, de notre Israël déjà affaibli, Dieu décide de la rendre encore plus faible. Pourquoi Dieu fait une chose comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu permet des temps de faiblesse dans nos vies où il semble impossible de s'en sortir? Eh bien, c'est pour nous apprendre à avoir confiance en lui et que nous cherchions notre soutien en lui et en lui seul. Parce que notre soutien ne vient pas de nos propres forces. De cette façon, il peut se révéler encore plus afin qu'il soit glorifié. Dans Deutéronome, je ne vous l'ai pas dit, c'est que tu ne l'auras pas là-bas, c'est correct. Mais vous pourrez faire une lecture vous-même, mais je veux juste lire quelques versets. Deutéronome 8, n'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans. On parle de quand le peuple d'Israël était dans le désert, okay? Afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. C'est un test. Israël, quand ils ont passé au travers du désert pendant 40 ans, c'était un test. Dieu voulait voir de quoi que... Puis c'est lui qui les a toutes données. Il était faible à ce moment-là. Fait que je vous encourage, si vous avez le temps d'aller le lire, dans Deutéronome 8, aller jusqu'à la fin. Puis on peut même... Pensez un peu plus autour du verset, je vais revenir là, attendez un petit peu, 16, à partir de 16. Dans ce désert, il t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissent pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. Prendons garde de ne pas dire, c'est par mes propres forces, par ma puissance, que j'ai acquis toutes ces richesses. Alléluia. Dieu veut que ce soit lui qui soit glorifié au travers des épreuves qui nous arrivent. Le cœur de l'homme, dans le fond, si on regarde, s'il se serait battu à 4-1, le cœur de l'homme, il aime bien de se glorifier de ses exploits. On aurait peut-être passé au travers, là, à se battre, là, on l'aurait peut-être eu. Là. Puis finalement, le cœur de l'homme aurait commencé à se glorifier de « Hey, on était bon, hein? » Au lieu de rendre gloire à Dieu. Ou il aurait peut-être rendu gloire à Dieu un peu. Mais à mesure que l'histoire aurait continué dans le temps, bien, ça aurait peut-être été plus une histoire que finalement Dieu est resté de côté. Puis « Ah, mais regarde, c'est par notre force qu'on a fini. » Tu sais, des fois, on a tendance à peut-être oublier des fois ce que Dieu a fait. Une libération que Dieu a faite, quelque chose qui est fait pour nous, qu'on lui rend gloire au début. Mais au cours des années, à mesure qu'on compte notre histoire, des fois, il y a peut-être des choses qu'on peut omettre. Moi, je vais ramener une histoire personnelle que moi qui m'est arrivée. Dans le temps que j'étais en Saskatchewan, au début de ma marche avec le Seigneur, on cherchait un piano. Puis, Un matin, je suis en train de rouler en voiture, puis là, tout d'un coup, ça me dit « rouvre la radio ». Fait que là, je rouvre la radio. Fait que là, après ça, ben c'est comme « ben va à tel canal ». Fait que là, je m'en vais à tel canal. Puis là, c'est comme « prépare un crayon, ben papier ». Il faut que je te dise tout. Fait que là, je me prépare un crayon, ben papier, puis bang, il y a quelqu'un qui annonce un piano à 200$. Hey, ça rentre dans mon budget, parfait, merci. Mais quand j'arrive, j'étais militaire dans ce temps-là, quand j'arrive sur la barre, je ne peux pas appeler, c'est une longue distance. Fait que là, j'appelle ce qui est aujourd'hui mon ex-femme. Je l'appelle, je dis « Tu peux-tu appeler? » Puis tout, puis elle, mais elle ne peut pas. Fait que là, finalement, elle finit d'appeler juste à la fin de la journée. Mais quand elle finit par appeler, le gars avait passé son annonce, puis il est parti. Dans les petites... tu sais, le genre de... Tu sais, le téléphone, là, à la radio, là, les annonces publiques, là. Fait que là, lui, il est parti. Puis là, il revient chez eux. Puis elle a pas pu appeler, mais au moment où elle appelle, il remet le pied dans la maison. Bang! Piano, 200$. Oui, on le prend. Clos. Parfait, merci. J'ai parti, j'ai été chercher ça. J'ai pensé que ce ne sera pas bon, tu sais, je veux dire, 200$. Mais ça a super bien été. C'était un super bon piano. Plusieurs années après... un moment donné, j'ai vécu une période de ma vie que je me suis éloigné du Seigneur, puis on n'allait plus à l'église, puis tout ça, puis ça a fini avec un divorce, puis tout ça. Mais je continuais à compter cette histoire-là tout le temps, de la gloire de Dieu, de ce qu'il avait fait dans ma vie. Mais c'était rendu un embarrassement pour mon ex, parce qu'on s'était éloigné un peu de ce que le Seigneur avait fait, puis de rendre gloire à Dieu, c'était « Ah, ben non, c'est pas tout à fait de même, là. Non. » C'est direct comme ça que c'est arrivé. Puis moi, tu sais, j'aime rendre gloire à Dieu pour les choses qu'il a faites dans ma vie. Mais des fois, on pourra faire, notre cœur peut être détourné, on peut décider de laisser les choses de côté des fois de ce que Dieu a fait. C'est une petite parenthèse. Est-ce que tu serais un des 300? Est-ce qu'on serait un des 300? Vous savez que j'arrive avec 300, Mario? Bon, on va continuer notre histoire. On est dans Juges 7, 3 et 8. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau et je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Dieu est précis, hein? En fait. Que Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains, autrement dit, ils ramassaient de l'eau, ils l'emmenaient ici, puis ils buvaient comme ça. Portant la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Ça m'est déjà arrivé en forêt, à la chasse, puis à un moment donné, j'avais vraiment soif, puis là, j'ai commencé à prendre de l'eau de même. Là, coudonc, on n'a fini plus. Fait que là, je m'étais mis à quatre pattes à terre, puis tu te plantes la bouche, puis tu sais, ça va bien plus vite quand tu as soif, là, tu sais, là. Mais ça, c'est laisser aller à tes besoins naturels. Tu as soif, tu veux en avoir plus vite, puis tu n'es pas aux aguets de ce qui se passe en entour de toi. Puis Dieu, ce qu'il a cherché, il voulait avoir des personnes qui étaient aux aguets, qui étaient... conscient de ce qui se passait autour d'eux autres. Puis c'est ces 300-là que j'ai choisi. Par les 300 hommes qui ont la paix, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Tout le reste du peuple s'en aille chez eux, que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. Et on prit les vivres du peuple, fait que là, ils ont gardé quand même la bouffe que tout le monde avait emmenée, là, fait que, puis ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Il retint 300 hommes. Fait que c'est pas pire, on est parti de 32 000 à 300. Puis on s'en va encore contre 135 000, par exemple. Là. On se met un petit peu à leur place. Nous avons lu que ceux qui étaient effrayés de combattre pouvaient retourner chez eux. Et 22 000 ont dit « Non, merci, je m'en vais. » OK? Puis, dans le fond, c'était correct. Parce que la loi de Moïse prévoyait une clause à cet effet. En Deutéronome 20, 1 à 8, vous pourrez aller le voir, mais ça disait, si tu avais peur ou que tu étais fiancé, puis tu n'avais pas encore été... tu étais dans la première année, tu n'étais pas encore marié, tu pouvais être libre de partir. Tu pouvais tout simplement être libre de partir. Puis, une petite note aussi encore là, il n'y avait aucune condamnation pour ceux qui avaient trop peur de combattre. Dieu n'a jamais obligé quelqu'un qui était dans la crainte de venir combattre à ses côtés ou de venir combattre. Il ne l'obligeait pas. Puis il n'y avait pas de condamnation pour ceux qui avaient trop peur de combattre. C'est pareil aujourd'hui. Dieu cherche des personnes qu'il peut utiliser, mais parfois, la peur nous empêche d'être utilisés par Dieu. Il ne nous condamne pas. Il sait ce qu'on est rendu. Mais quelle belle opportunité manquée de grandir dans notre foi. Parce que des fois, c'est ça qui arrive. C'est que c'était une opportunité qui aurait pu nous faire grandir. Mais à cause de notre crainte, on n'a pas osé. On n'a pas osé faire ce pas-là. Et ça nous aurait probablement permis de grandir. Essayons de ne pas laisser la peur nous retenir et par le fait même de perdre des belles occasions de voir Dieu agir dans nos vies. Un autre test devait être passé. De 10 000 qui restaient, encore 9 700 devaient s'agenouiller pour boire de l'eau. Et 300 se sont tenus debout, restant sur leurs gardes. Et c'est le groupe qui intéresse Dieu. Ces hommes étaient restés alertes, tandis que les 9 700 autres s'étaient tout simplement laissés aller le besoin naturel. Je me répète un petit peu, c'est peut-être parce que j'étais à l'avance de mes notes tantôt. Quelqu'un a déjà dit concernant ces deux tests, le premier groupe s'est lui-même disqualifié parce qu'on a peur. On est parti. Ils se sont disqualifiés. Et le second, c'est Dieu qui les a disqualifiés. Parce que le second groupe, les 9 700, mais c'est Dieu qui les a disqualifiés. Et parce qu'ils ont pas, ils sont pas restés alertes. Ils se sont laissés aller complètement à leurs besoins naturels. Tu sais. Ça devrait nous interpeller. Hein, interpeller. Est-ce que je me qualifie ou Dieu me disqualifie? Est-ce que je me disqualifie ou est-ce que c'est Dieu qui me disqualifie? Excusez. Est-ce que je peux être utilisé par Dieu? Est-ce que dans ma vie aujourd'hui, est-ce que Dieu peut amener une situation où est-ce que je peux être utilisé par lui? Personne ne savait que d'aller boire de l'eau était un test. On prend un petit drink ensemble. Puis les 10 000 étaient tous... Les 10 000 qui restaient là, ils étaient prêts à aller au combat. Okay? Ils étaient prêts à aller au combat, mais il y avait encore une autre étape que Dieu voulait faire. Mais Dieu, parfois, se sert de choses ordinaires pour voir à quel niveau il peut nous utiliser. Nous sommes donc rendus à 300 contre 135 000, donc 450 pour un. Donc là, même si je suis à côté de Joey, oublie ça. On n'a aucune chance. On n'a aucune chance. Là, peut-être si on est très contre les Vikings, là. Il y a plus l'air des Vikings, mais en tout cas, évidemment, surpassé en nombre, sauf pour un fait, Israël a un Dieu tout-puissant à ses côtés. 450 pour un, mais hey, j'ai Dieu avec moi. Hallelujah. Hey, ça, là, ça équivaut toutes les forces. Excuse, Joey, tu peux rester assis. Je vais prendre Dieu n'importe quand. Puis Dieu, il est bon, hein? On va aller voir un petit peu plus loin. Encouragement de Dieu, en Juges 7, 9 à 15. Je vous fais lire un petit peu un matin, mais on découvre l'histoire de Juges. C'est le fun, hein? Ça vous intéresse-tu, non? L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. » Car je l'ai livré entre tes mains. « Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp, et il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'au avant-poste du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. » J'avais besoin de voir ça, moi, Seigneur, tu sais. Je savais qu'il y avait déjà du monde, mais là, je le vois de mes yeux. Là. C'est comme une multitude de sauterelles qui est en avant de toi. Là, là. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Fait que Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge, on se rappelle du pain d'orge, roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente, et il est tombé, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Et on lit que lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna. J'arrête là. Gédéon et ses 300 hommes se préparent à aller attaquer le camp de 135 000 Madianites. On peut s'imaginer ce qui se passe un peu dans leur tête. Hein? Pas vraiment le bon moment pour marcher par la vue, mais il faut marcher par la foi. Voyez? Parce que si on se fie à ce qui est en avant de nous autres, là, ça ne regarde pas bien. Mais encore, Dieu est extrêmement bon en ce moment. C'est vrai que Dieu est extrêmement bon en ce moment. Et j'aime ce passage-là où Dieu, dans son grand amour, nous apporte un encouragement. Tu sais, des fois, on va vivre une situation. Il sait que Gédéon se sent, tu sais, peut-être un petit peu dépourvu devant tout ça. Puis il lui fait entendre, dans le camp ennemi, un encouragement comme quoi que Dieu lui donne la victoire. Tu sais, ça vient même de l'ennemi. Ça peut venir des fois par des voies qu'on ne s'attend pas, mais il y a un encouragement qui arrive dans notre direction. Une personne qu'on ne connaît pas va nous dire un encouragement, un frère, un verset qu'on va lire, qui va tout simplement venir à bout de recrinquer notre encouragement, en fait. Il nous apporte un encouragement quand nous sommes dans un moment les plus vulnérables. Je l'aime parce qu'il m'est arrivé de vivre la même chose et que Dieu, soit par un rêve, un verset ou un encouragement ou une parole d'une autre personne, nous donne un encouragement qui est clair. Je vous disais tantôt le pain d'orge. Tu sais, quand je disais le gâteau de pain d'orge, mais je m'étais mis une petite note ici. Le blé et l'orge sont très représentatifs dans la Bible. OK? Et les personnes qui se nourrissaient du pain d'orge étaient, en fait, les pauvres fermiers ou les personnes plus pauvres en Israël. Ceux autres qui se nourrissaient du pain d'orge. Le blé était réservé, admettons, pour les plus riches. Et l'orge est vraiment représentatif du pauvre qui va avoir... celui qui a moins de choses. Là. Fait que ça veut dire que Dieu se sert vraiment le plus beau. Faites-vous-en pas, il me reste juste 10 pages. Voici les étranges armes de notre combat. OK? Juges 7, 15 à 18. Donc, il revint au camp. Je continue de ce qu'on disait tantôt. Donc, il revint au camp et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa... trois corps, il divisa ça en trois corps, donc trois fois 100 hommes. Et il leur remit tous des trompettes, des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez, vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette autour du camp et vous direz, « Pour l'Éternel et pour Gédéon. » Alors, Gédéon divise ses 300 en trois compagnies et il leur remet leurs armes. OK? On va se mettre à la place des 300. On est en ligne pour aller chercher nos armes. Encore une fois, mettons-nous un petit peu à leur place. On est rendu 300 contre 450 et on pourrait peut-être s'attendre à recevoir des armes un petit peu extraordinaires, genre peut-être un sabre au laser. Tu sais, ça pourrait nous aider là, dans une situation comme ça. Mais, fait qu'on se place en ligne pour recevoir nos armes. Et voilà, une torche, une cruche vide, puis une trompette. OK. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, Gédéon? On va essayer de le faire sauter les tympans en sonnant notre trompette, puis en faisant des fausses notes. C'est pas trop encourageant quand tu regardes les armes avec lesquelles tu t'en vas affronter 135 000 personnes, OK? Et des soldats, pas juste des personnes. Merci, Gédéon. On est censé faire quoi, lui casser les oreilles? C'est alors que... OK. On reviendra avec ces armes étranges. Pour l'instant... Pour l'instant, ne font que nous faire sentir encore plus faibles. OK, ces armes ne font que nous faire sentir encore plus faibles. OK? C'est alors que nous sommes faibles que le Seigneur va nous prouver que lui, il est fort. Alléluia. Mais nous avons un trésor à l'intérieur de vases d'argile. Juges 7, 19 à 21. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp, aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu. Ça veut dire le milieu de la nuit, finalement, à peu près, vers 3 heures du matin. Mais, comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette. Ils brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois quarts sonnèrent de la trompette et ils brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Voici que finalement Madian reçoit sa juste part du gâteau. Il a persécuté Israël pendant un bout. Puis là, finalement, là, il est en train de recevoir le désert. Quand les vases sont brisés, exposant la lumière, et que les trompettes sonnent à tue-tête, tout autour du camp, une grande confusion s'installe dans le camp de Madian. Dieu prépare la victoire sur les forces de Madian alors que de tous les côtés, ils entendent une épée pour l'Éternel et pour Gédéon. OK, Mario, tu nous racontes une belle histoire, mais c'est quoi le rapport avec nous aujourd'hui? Hein? Dans le fond, hein? Eh bien, Madian, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire conflit. Fait que Madian qui est en avant, dans le fond, c'est ce qui a amené un conflit dans leur vie, ce qui a amené le conflit avec Israël. Et donc, Madian, c'est un portrait des conflits et des épreuves que nous aurons à faire face au cours de notre vie. Puis c'est vrai que des fois, ça semble gros et pesant. T'sais? Ça semble vraiment trop pour être capable de passer au travers de nous autres-mêmes. Est-ce que Dieu se sert encore de Madian aujourd'hui? Eh oui. Et si c'est le cas, quel vase, quelle trompette et quel flambeau avons-nous pour gagner la victoire? Bonne question. Je suis content que vous me l'avez demandé. Non? Ah, tu sais pas, mais toi, c'est toi qui me l'as demandé. Hein? Ouais. Le passage dans le livre des juges est accompli dans le Nouveau Testament. Là, c'est là que je trouve que le Seigneur est bon avec nous. Parce qu'il y a des histoires qui se sont passées. On dit, l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Mais il nous ramène ça exactement dans le Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Vous êtes les vases d'argile. Jésus est la lumière à l'intérieur de ces vases et votre témoignage est la trompette que vous devez faire sonner. Tu sais, on est argile. T'es poussière, tu reviendras poussière. Et Jésus a mis sa lumière en nous. Tu sais, c'est quelque chose, là. Tu sais, puis on a juste à laisser briller cette lumière-là. Allons voir le passage, réfléchissons-y un peu. C'est dans 2 Corinthiens. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Ça, c'est à la base de tout. Si tu veux t'exalter, quand tu veux témoigner à quelqu'un, témoigne de Jésus, témoigne pas de toi. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus, car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, car Dieu, qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. J'ai demandé un chant avec qui ce matin? Mais presque tout ce qui s'est passé ce matin, là, elle nous est arrivée avec des chants sur la lumière, elle nous est arrivée avec... c'était tellement là mon message, dans un sens. Là. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. T'sais? Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen, hein? Amen. Dieu a fait briller sa lumière dans nos cœurs. C'est la lumière de la présence de notre Seigneur, Jésus-Christ, dans nos vies. J'ai encore une petite note ici que je me suis mis à côté. C'est « On est appelé, comme Gédéon, à laisser cette lumière briller. » La présence de Dieu dans nos vies ne devrait pas être cachée, mais devrait briller à travers notre caractère et nos actions. Jésus a dit « Vous êtes la lumière de ce monde. » Une ville sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe et pour la mettre sous un bol. Au contraire, on la met sur une table, OK, afin que la lumière profite à tout le monde qui est dans la pièce. Il ne faut pas cacher cette lumière-là qu'on a en nous. De la même façon, laissez votre lumière briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes actions et qu'ils puissent rendre grâce à Dieu. Pas nous rendre grâce à nous autres, mais rendre grâce à Dieu. On ne gagne pas notre salut en faisant des bonnes actions, mais par nos bonnes actions, Dieu est révélé en nous. Le geste qu'on fait, qu'on pose pour quelqu'un, c'est ça qui nous arrive. Cette puissance qui dépasse l'entendement de Dieu, la placer dans de fragiles vases d'argile, c'est-à-dire nous. Parce qu'on est fragile. Des fois, on se pense fort, mais on est fragile. L'être humain est si fragile, un vaisseau terrestre qui contient, il contient quoi? Il contient la vie de Dieu. Dieu a soufflé son souffle de vie en nous pour nous donner la vie. Fait qu'on a la vie de Dieu, puis en plus, il nous envoie son esprit pour venir à bout de... Quand on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il nous envoie son Esprit Saint pour nous faire avancer. Comment laisser cette lumière briller? Bien, la lumière de Dieu peut être vue en nous à mesure que les craques se forment. Tu sais, parce que pour que la lumière puisse sortir, il faut qu'il y ait des craques qui se forment. C'était là. T'sais? Puis ces formes-là, ces craques-là, bien, ils se forment au travers de nos épreuves. Comme Gédéon et ses hommes ont dû briser leur vase pour laisser briller la lumière, nous allons avoir des moments de faiblesse qui permettra de laisser passer la lumière. Quand je suis faible, c'est là que la lumière va passer. Paul nous dit que dans les moments où il se sentait écrasé, perplexe et persécuté, qu'il voyait Christ révélé à travers ces moments de faiblesse. Donc, Gédéon et son armée limitée, armée de vases, flambeaux et de trompettes, foncent sur le camp de Madian, sur tous les hommes. Des angles qu'eux autres ils pouvaient couvrir, contre 135 000. Est-ce que la lumière de Dieu et l'appel à la trompette va leur amener la victoire? Bien sûr, on l'a dit tout de suite au début, vous le savez déjà. Hein? En Juges 7, 22-23, les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont tourné l'épée. Le monde a commencé à s'entretuer entre eux autres. Okay? Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shita vers Tereza, Rera, ou en tout cas j'ai un petit peu de misère avec ces noms-là, jusqu'au bord de Abel-Méola, près de Taba. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Niphtal, Azer et Manassé, et ils poursuivirent Madian. Un coup que ça a commencé, après ça, il y en a d'autres qui ont embarqué dans le chose. Mais Dieu a libéré Israël avec 300 hommes. OK, ils ont eu la victoire, vous le savez. Il ne faut pas oublier quel ingrédient a fait tourner la bataille. OK? Les vases avaient été brisés, la lumière libérée, mais c'est lorsque les trompettes se sont mises à sonner à nouveau. Parce que quand on le lit, là, ça nous dit, si les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, ils ont crié le cri de ralliement, mais après ça, ils ont encore ressonné de la trompette. Puis c'est à ce moment-là que les épées se sont virées de bord dans le camp et ont commencé à s'entretuer. L'équipe de louange, si vous voulez vous approcher, je m'en viens proche de ma conclusion. Non, c'est bien correct. Regarde, j'aime ça. Ça fait une belle petite ambiance. Bien parfait. Tu sais? Ça sonne un peu moins de trompette. La trompette s'est mise à sonner que la victoire est arrivée. Sonnez la trompette, mais non pas la vôtre. Sonnez la trompette de Dieu. Tu sais? Parce que il y a beaucoup de gens autour de nous qui vont sonner leur propre trompette, OK? Des exploits qu'ils ont vécus. Et souvent, ça sonne faux pour les personnes autour. Sonner la trompette de Dieu, c'est la seule option. Tu sais, si on veut avoir un vrai témoignage. Regardons ce que l'apôtre Paul a écrit dans le passage que nous avons vu plus tôt. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Le témoignage et la trompette que nous donnons doit être à propos de Jésus et non de nous-mêmes. À travers les moments difficiles, un témoignage vrai et honnête de ce que Dieu accomplit est une chose merveilleuse. Dieu s'en servira pour attirer chrétiens et non-chrétiens. Exemple, bel exemple dans tout ça, c'est Moïse. Dans Exode 18, 8 à 12, si vous voulez aller le lire, quand Moïse raconte à son beau-père, à Jéthro, il raconte à son beau-père tout ce que Dieu a fait pour sortir le peuple d'Égypte. Bien, Jéthro, lui, il est étonné de tout ça. Tu sais, de qu'est-ce que Dieu a fait, de qu'est-ce que Dieu a accompli, par le témoignage que Moïse est en train de dire, puis il voit ses yeux aussi, le peuple est là, c'est un peuple nombreux qui est là. Puis Dieu a agi, Dieu a fait de quoi? Fait que ce témoignage-là, pour lui, ça y fait, il en perd ses moyens. Puis, il vient vers Dieu. Il ne peut faire autre chose que d'adorer l'Éternel parce qu'il réalise que qui d'autre est comme l'Éternel? Quel autre Dieu est comme l'Éternel? Quel autre Dieu est comparable à l'Éternel? Alléluia! Alléluia! Alors que je termine, ce message sur Gédéon et la puissance de la faiblesse nous a démontré comment Dieu aime se servir de nous dans nos moments où on se sent les plus vulnérables. Et ça arrive souvent quand on est entouré par Madian, le conflit, le trouble, l'oppression. Comme Gédéon, ça peut être intimidant et épeurant. Quand on découvre c'est quoi nos chances de réussite, les épreuves ne sont jamais plaisantes quand on est dedans. Sinon, on les appellera pas des épreuves. On les appellera d'autres choses. Excusez. Mais nous pouvons fortifier notre cœur, car Dieu peut opérer à travers de chacune de nos épreuves. Lui, il n'est pas pris ça. Il n'est pas pris au dépourvu quand il nous arrive une épreuve. Elles sont là pour renforcer notre foi et la démonstration de sa vie, la vie de Dieu à travers nous. La vie de Jésus à travers nous. Chaque fissure dans ce vase d'argile apporte un peu de lumière. Paul a dit en 2 Corinthiens 12, 9, 10, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Honnêtement, je ne peux pas dire que je me réjouis tout le temps dans la faiblesse. Oui, des fois, ce n'est pas nécessairement des places où on aime être. Oui. Mais, avec du recul, je m'aperçois que Dieu a toujours été présent, par exemple. Puis c'est lui qui vient me libérer. Quand je regarde justement des moments dans ma vie où ça a été difficile, c'est là que je réalise que Dieu a été ma force. Et quand je les regarde, je ne changerai rien. J'ai eu des hauts, des bas, mais je ne changerai rien. Parce que Dieu a trop été brillant au travers de tout ça. Il m'a toujours supporté et défendu de sa droite triomphante. Et rappelons-nous que Dieu aime faire de nous des Gédéons. Alléluia.